franceinter.fr.
Et aujourd'hui, à la une de la science, des outils et des traces d'activité humaine qui remettent en question le peuplement de l'Asie par l'homme. Le site archéologique de Kalinga, sur l'île de Luzon, aux Philippines, réserve décidément bien des surprises aux chercheurs, comme on va vous l'expliquer. Et pour introduire cette découverte importante, un petit point géographie.
Les Philippines sont situées sur la ceinture de feu du Pacifique, en Asie du Sud-Est. Elles forment un immense archipel volcanique. Cet arc insulaire s'étend sur 1600 km du nord au sud et sur plus de 1000 km d'est en ouest. Avec ses 36 000 km de côte, les Philippines sont composées de plus de 7000 îles, 2000 environ sont habitées.
Extrait du dessous des cartes d'Arte pour partir justement en direction des Philippines, Caroline Tourbe avec notre invité.
Oui Mathieu, aujourd'hui nous sommes en studio avec Thomas Njiko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléo-anthropologue, maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et vous avez dirigé les fouilles de ce site de Kalinga. Vous pouvez un peu nous dire où se situe ce site et pourquoi vous êtes allé fouiller là-bas ?
Alors nous sommes tout à fait dans le nord des Philippines, tout à fait au nord de la grande île de Luzon. La grande île de Luzon, c'est l'île sur laquelle se trouve Manille. Et nous sommes sur la rive ouest de la grande rivière Cagayan, la plus grande rivière des Philippines, dans un site de plein air.
Alors, donc c'est Luzon et pas Luzon, comme je l'ai dit tout à l'heure, lamentablement.
Ça dépend si on voilà. Prononce à la française ou alors,
en fait, merci,
c'est moi qui prononce à l'anglaise.
Excusez-moi,
par habitude. Et donc, comment nous sommes allés faire nos recherches là-bas ? Eh bien, un peu comme toute bonne histoire, cela a commencé avec la redécouverte de vieux papiers, d'archives. J'étais à l'époque, en 2013, en poste à l'université de Manille et mon département a changé de bâtiment au sein du campus de l'université de Manille. Et en changeant de bâtiment, la bibliothèque a également bougé et a souhaité profiter de cette occasion pour revoir un peu ses collections et notamment se débarrasser des exemplaires en double, voire des vieux papiers. Et les étudiants étaient invité à aider à ce déménagement et à faire le tri. Et un de ses étudiants, Noël Amano, qui travaillait dans le laboratoire que je dirigeais à l'époque, a mis la main sur des vieux papiers qui dataient des années 1940 et m'a dit « ça c'est particulièrement intéressant ». C'est particulièrement intéressant parce que il y avait là des articles sur des prospections, des articles de journaux, de presse, des coupures de presse, sur des prospections qui avaient été menées dans les années 40 et puis une lettre qui faisait l'état de découverte qui datait de 1935 par des locaux de fossiles de rhinocéros, pour le coup, et puis ensuite de fossiles également de stégodons. Alors, stégodon, c'est un cousin des éléphants. Et donc, il est venu me voir, puisque c'est effectivement ce que l'on recherchait nous-mêmes au sein du laboratoire d'archéozoologie que je dirigeais à l'époque.
Donc, vous avez ce faisceau d'indices, vous décidez de partir explorer le site de Kalinga, et qu'est-ce que vous allez y trouver ?
Un rhinocéros également, mais c'est une pure coïncidence. En fait, la région est connue effectivement depuis très longtemps et d'autres archéologues avaient essayé de mettre en évidence la contemporanéité de l'homme avec ses faunes éteintes, ses très grandes faunes éteintes, un rhinocéros, stégodon, que l'on connaissait par des découvertes en surface. Alors, puisque en surface, il était impossible de dire si elles étaient bien contemporaines ou bien s'il s'agissait d'un mélange qui s'était produit au cours du temps. Pour prouver la pénécontemporanéité de ces vestiges, il fallait les trouver dans un même niveau sédimentaire. Donc nous avons prospecté en 2013, nous avons ouvert une fouille, et à un mètre de profondeur, nous avons trouvé effectivement une première dent de rhinocéros, dans un carré de 2 mètres sur 2, puis nous avons étendu ce carré vers le nord par un autre carré de 2 mètres sur 2, là nous avons trouvé le premier outil. Nous avons continué l'extension de la fouille et en fait nous avons réalisé que nous avions de nombreux outils et puis un squelette presque complet de rhinocéros.
Et puis vous avez trouvé sur les os de ce rhinocéros des traces dont vous avez pu prouver qu'elles étaient des traces laissées par un outil.
Oui tout à fait, alors dès la fouille, nous fouillons avec des... non pas à la truelle ou avec les outils de dentiste en métal, comme on a l'habitude de penser pour les archéologues, mais nous fouillons avec des petits morceaux de bambou que nous fabriquons sur place.
Pourquoi ?
Dans le seul but d'éviter de faire nous-mêmes des traces à la surface des ossements qui...
Ensuite,
il faut pouvoir faire la différence entre les marques faites par l'archéologue et par les hommes préhistoriques. Et en fouillant avec nos petits outils de bambou, en enlevant l'argile à la surface des ossements, on a vu des marques qui nous ont semblé bizarres. Donc on a plâtré l'ensemble du squelette. Et
pour
on
faire
a ramené...
des empreintes en fait de vos trouvailles?
Non, pour les protéger et pour les ramener intactes au laboratoire à Manille, où nous les avons fouillés méticuleusement pendant 3 mois. Et ensuite observé sous la houppe binoculaire. Et là, effectivement, nous avons confirmé qu'il y avait bien des traces de découpe faites par des outils préhistoriques.
Et ensuite, vous les datez.
Voilà, c'est ça, il faut dater tout ça.
Alors là, surprise.
Alors les dater, on a daté plusieurs choses. D'abord, on a fait une date directe du rhinocéros, une dent de rhinocéros, par une méthode qu'on appelle la résonance paramagnétique de spin électronique. C'est un peu compliqué, mais en gros, on date l'émail dentaire et donc la mort du rhinocéros. Et en datant la mort du rhinocéros, finalement, on date également les activités de boucherie, puisqu'évidemment, les hommes l'ont mangé pendant qu'il était encore frais. Et là, on obtient un âge de 709 000 ans, qui est confirmé par les autres méthodes que nous avons appliquées sur les niveaux juste en dessous et juste au-dessus du niveau archéologique, et qui donnent la même tranche d'âge.
Ouais, vous pouviez imaginer cette première datation ou pas?
C'est ce qu'on attendait. Ouais. C'est ce qu'on attendait pour plusieurs raisons. D'abord, la faune que l'on retrouvait en surface, cette mégafaune, lorsque comparée au reste de l'Asie du Sud-Est, on suspectait qu'elle devait avoir 800 000 ans environ. Et puis, nous avions également en surface trouvé de nombreuses tectites. Les tectites, ce sont les produits d'impact d'une météorite qui a eu lieu dans le sud de la Chine il y a 800 000 ans, un tout petit peu moins de 800 000 ans. Et parce que l'on en trouvait plein, on suspectait qu'on devait être peu de temps après cet événement.
Donc vous attendiez quand même à avoir une datation de cet ordre-là, mais c'est quand même une surprise parce que les dates précédentes, on était à 67 000 ans. On a trouvé en fait dans...
Sur la présence humaine.
Sur la présence humaine, oui. Ouais. Preuve directe de présence humaine. Un petit bout d'os, c'est ça? Pas très loin?
Preuve directe de présence humaine, en fait le plus vieux site tout simplement des Philippines avant cela, c'était un petit fragment de pied, un métatarse, qui était trouvé par des collègues de l'Université des Philippines et puis en collaboration avec des collègues français du muséum également. Et la particularité de ce métatarse, c'est qu'il présente de toutes petites dimensions et puis une morphologie un petit peu particulière, qui n'est pas sans rappeler l'homme de Flores, que l'on trouve sur l'île de Flores, et qui a la particularité d'être une espèce humaine naine, puisqu'elle a évolué pendant plusieurs milliers d'années de manière isolée sur l'île de Flores, en l'absence de carnivores, de prédateurs, dans des conditions environnementales restreintes. Et donc, la conséquence de tout cela, c'est le nanisme.
Sauf qu'on n'est pas au même endroit, on est aux Philippines et vous parlez de l'île de Flores, donc on fait comment le lien entre les deux?
Le lien, c'est le contexte insulaire, c'est l'isolement. Sur toutes ces îles, certains animaux arrivent très facilement en nageant, puisque ce sont des îles qui ne sont jamais connectées au continent, même durant les phases glaciaires, lorsque les calottes glaciaires au niveau des pôles se développent et donc le niveau des mers descend. Certaines îles se retrouvent connectées, mais les Philippines et l'île de Flores ne sont, elles, jamais connectées. Et à partir de là, pour arriver sur ces îles, il faut, pour les animaux, nager ou aller sur des morceaux de bois qui
dérivent. Mais pour des hommes, comment est-ce qu'ils auraient fait?
Alors, pour les hommes, probablement également, ils auraient eu la chance, si je puis dire, de se retrouver sur la côte au moment d'un tsunami peut-être, qui peut arracher des lambeaux de terre qui vont ensuite dériver pendant plusieurs semaines et puis arriver sur ces îles vierges.
Ah, c'est vraiment le scénario de l'île flottante alors, c'est ça?
C'est exactement ça, on a des exemples historiques d'îles de plusieurs centaines de mètres qui dérivent comme ça et c'est pour l'instant l'hypothèse la plus probable.
Et elles auraient dérivé comment? Par les courants, par les vents?
Probablement par les vents, ça semble être le facteur principal. Nous sommes au nord de l'équateur, donc les vents convergent vers l'équateur, vers le sud, et donc pousseraient ces îles depuis le nord.
Et viendraient du nord, donc.
Possiblement, c'est ce que nous cherchons maintenant.
Il y a beaucoup de commentaires sur cette publication, dans le monde entier d'ailleurs. Une publication Nature avec des commentaires absolument partout. Vos collègues sont sceptiques ou au contraire s'intéressent de très près à votre découverte là?
Ah non, ils trouvent ça super. Effectivement, plusieurs experts sont intervenus de manière indépendante, ont donné leur avis en fonction de leur domaine d'expertise, que ce soit les datations ou justement l'analyse de ces traces de découpe. Et de ce que j'ai pu lire, que ce soit sur le site du National Geographic ou sur le site de Science ou même sur CNN, ils sont plutôt convaincus. Donc on est plutôt contents.
Et il faut continuer à fouiller, hein, parce que vous avez plein de choses à découvrir encore sur place. Donc,
et vous y retournez très vite.
Absolument, sur ce site. Thomas Ingico, donc 700 000 ans pour la présence humaine dans ce lieu des Philippines et vous êtes paléoanthropologue, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Merci beaucoup d'être venu nous en parler cet après-midi à la Une de la Science. Merci à vous. Caroline, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la découverte du premier bec d'oiseau. Des chercheurs de l'université de Yale sont parvenus à reconstituer un crâne tridimensionnel d'un oiseau, révélant l'une des transformations les plus frappantes de l'histoire de l'évolution. Avec un cerveau d'apparence moderne et un muscle de la mâchoire typique des dinosaures, il s'agit d'un moment charnière dans la transition entre les dinosaures et les oiseaux modernes. Ce premier bec d'oiseau, appartenant à l'espèce Icthyornis dispar, ressemblait à une pointe de pince recouverte de cornes au bout de la mâchoire. Le reste de la mâchoire était rempli de dents. À l'origine, le bec était un mécanisme de précision qui servait de main de substitution lorsque ces dernières se sont transformées en ailes. Ce spécimen, qui vivait il y a 100 millions d'années en Amérique du Nord, ressemblait à nos oiseaux de mer actuels. Des lasers dans les yeux de vache, des chercheurs britanniques de l'équipe de l'université de St. Andrews ont développé l'un des systèmes lasers les plus petits du monde à l'aide de membranes ultra minces et de semi-conducteurs organiques. Et comme leur dispositif est très souple, ils ont pu l'implanter dans une lentille de contact avant de la déposer sur un œil de vache. Le but des scientifiques n'est pas de transformer les bovins en super-héros, non, ils envisagent plutôt de mettre au point des systèmes d'identification optique à l'aide de code-barres laser. La lentille de contact n'est pas le seul objet sur lequel ce dispositif pourrait être implanté. L'équipe travaille également sur des billets de banque qui seraient ainsi infalsifiables. Et puis de l'hélium sur une exoplanète, c'est la première fois, là aussi, que ce gaz est repéré au-delà du système solaire. Une équipe internationale a découvert des indices de sa présence autour de l'exoplanète WASP-107b, située dans la constellation de la Vierge. Les chercheurs ont utilisé le télescope spatial Hubble pour observer le spectre lumineux qui traverse la partie supérieure de l'atmosphère de cette exoplanète. Ils ont développé à cette occasion une nouvelle méthode qui repose sur l'analyse de la lumière infrarouge, et cette méthode devrait permettre et devrait ouvrir de nouvelles voies d'exploration des atmosphères lointaines.